depuis la revue Critère jusqu'à l'encyclopédie de l'Agora, et en passant par d'innombrables articles, livres, colloques, tribunes dans la presse et le Devoir, a largement contribué à dynamiser la vie intellectuelle québécoise des 50 dernières années par son engagement dans la cité. C'est un observateur infatigable des forces qui travaillent notre temps. Il a su reconnaître les écueils idéologiques comme l'emmachination de l'humain, la montée du formalisme, l'hypermédication, le transhumanisme, et il a proposé des voies plus prometteuses. L'œuvre de Dufresne exprime le constant dialogue harmonieux entre la raison et la vie, comme l'indique le titre d'ailleurs de son dernier ouvrage. Et de l'autre côté, donc, nous avons son ami Youri Pinard qui est avec nous ce soir, qui sera également votre hôte ce soir, et qui se définit lui-même comme un philosophe comme tout le monde. Pour ce libre penseur et entrepreneur, la philosophie est une manière de vivre consciemment, et plus une manière de vivre consciemment, pardon, qu'une étude rationnelle ou un loisir. Étudiant au programme de philosophie pratique de Nouvelle Acropole, il aime s'inspirer des traditions philosophiques classiques qui portent à ses pensées. Et il s'abreuve aussi aux penseurs contemporains qui incarnent la pensée complexe et une vision courageuse de l'existence à une époque de bouleversement inédit. Alors, avant de passer la parole à Youri, je vais juste préciser effectivement qu'il serait important que vous laissiez, s'il vous plaît, votre caméra allumée tout au long de l'activité. C'est pour des raisons de sécurité, entre autres, qu'on vous demande. Et nous allons laisser aussi dans le chat un numéro que vous pourriez joindre par texto ou appeler si jamais il y avait le moindre problème technique qui se présentait. On a une équipe dédiée qui pourrait vous aider à ce moment-là. Et nous vous demandons aussi, comme l'a souligné Youri tout à l'heure, de bien vouloir laisser vos micros éteints pour éviter les interférences durant l'activité. Et enfin, je précise juste qu'après la période de présentation, il y aura une période aussi de questions qui sera animée par Yori et moi-même. Donc, si vous avez des questions durant l'activité, n'hésitez pas à les noter. Nous aurons l'occasion d'en parler ensemble à la fin. Je vous remercie et je laisse la parole à Yori.
Merci Didier. Tout le monde m'entend bien? C'est un petit signe? Ah, excellent. Donc, au sujet des caméras, c'est surtout que c'est plus convivial si vous les allumez, sinon j'ai un peu l'impression de parler avec un mur. Donc, on a le format des activités qu'on offre, c'est toujours des activités à visage découvert, donc par courtoisie les uns envers les autres. Merci d'activer les caméras. Par contre, vous allez voir qu'à un moment donné, une longue partie de la présentation est un enregistrement, je vais vous expliquer pourquoi. Mais à ce moment-là, je comprendrai très bien si vous avez besoin de circuler. Il y en a qui aiment ça, un peu comme lorsqu'on écoute un podcast. Ça ne me dérange pas si vous voulez éteindre la caméra. Mais je vais vous demander de la réallumer au moment où on aura notre causerie. Évidemment, personne n'aime parler avec un mur. Donc, ce sera le bon moment. En introduction, d'un point de vue un petit peu plus technique, peut-être, vous constaterez que Jacques Frank n'est pas avec nous. Il aurait bien aimé être là et on pensait bien qu'il pourrait le faire de sa campagne. Jacques habite dans les cantons de l'Est, près de Coaticook, sur une belle terre. Mais malheureusement, l'Internet haute vitesse promis ne s'est pas rendu à temps. Donc, je suis allé chez lui. Enregistrer l'entrevue et je vais vous présenter un enregistrement de l'entrevue qui dure 1 heure. Cette entrevue-là n'est pas un show, n'est pas quelque chose de. C'est même pas un truc qu'on a préparé de manière. C'est pas stagé, comme on pourrait dire. C'est vraiment une conversation amicale entre deux philosophes, dont l'un est un pilier de la vie intellectuelle du Québec. Et je dis bien de la vie intellectuelle parce que. Pas confondre avec l'intellectualisme froid. Jacques Dufresne est un homme dont les valeurs sont fortement tournées vers la vie et ça se voit dans sa pensée. Vous allez l'entendre. C'est quelque chose qui revient constamment, le souci de la vie, qu'est-ce que la vie, la vitalité, etc. Donc, malheureusement, on n'a que l'audio pour ce soir, mais je serai là avec vous après, donc à peu près dans 1 heure. Pour avoir une causerie, s'il y a des idées importantes qui vous ont touché, donc, sur lesquelles vous aimeriez revenir, ou si vous avez des questions. Pour ma part, je connais Jacques Dufresne, je l'ai connu dans les années 90 lorsque j'étais étudiant, et c'était un peu l'autorité en matière de philosophie, de sciences humaines. C'est le fondateur de la revue Agora, bien connue à l'époque, qui aujourd'hui est devenue plus un format encyclopédie en ligne. Donc, c'est une œuvre immense dont Jacques dit lui-même qu'il est le seul il est le seul à comprendre comment c'est fait ou qu'est-ce que ça contient, parce que c'est tellement tentaculaire comme œuvre. Donc, on travaille présentement d'ailleurs sur un projet de synthèse ensemble. Et donc, je l'ai connu dans les années 90, puis on s'est retrouvés, je l'ai connu sans le connaître par son œuvre, puis on s'est rencontrés en personne dans les années autour de 2015, alors que je partais pour un voyage autour du monde. Puis il m'a demandé une collaboration dans la revue, sa revue mensuelle de l'Agora. Donc, j'ai pu collaborer avec lui pendant à peu près un an et on a développé une belle amitié. Et au retour au Canada, on s'est rencontrés régulièrement. Donc, avec des belles conversations autour d'un repas. Toujours, il y a une tradition chez Jacques Dufresne d'accueillir les amis. Son épouse Hélène nous fait des bons repas, puis on philosophe, quoi. On fait le monde un peu comme. Bizarrement, un peu comme quand j'étais adolescent avec mes amis, on aimait refaire le monde, on aimait philosopher, on aimait penser, explorer, essayer nos valeurs, se faire connaître du point de vue du cœur. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec Jacques. Et souvent, on s'emballe un peu dans nos conversations, puis à la fin, on se dit, ouais, on aurait pu enregistrer ça, puis ça aurait fait un bon podcast ou quelque chose à partager ou un article à écrire. C'est comme si on avait un petit peu le regret d'un bon moment qui passe et qu'il y avait des bonnes choses là-dedans qu'on aurait voulu partager. Alors on s'est dit, on va provoquer l'occasion de temps en temps d'enregistrer nos conversations pour voir si ça donne quelque chose de bon. Puis c'est ce qu'on a fait pour la nuit de la philosophie. Donc, comme vous allez le voir, moi j'arrivais là un peu avec quelques questions d'entrevue, mais ça s'est vite transformé comme d'habitude, en improvisation philosophique. Donc, je le mets dans le contexte parce que c'est pas comme une conférence, c'est vraiment une conversation. Et vous allez peut-être sentir, vous le sentez pas, je vous le dis tout de suite, en tout cas, une sorte d'amitié, d'attachement. C'est comme si j'avais trouvé avec Jacques Dufresne une sorte d'âme sœur dans un homme beaucoup plus vieux. Donc, une sorte de mentor aussi. Et ce lien-là avec les plus vieux, des fois je l'appelle le vieux sage, je trouve que ça nous manque un peu dans notre culture d'avoir des liens avec des anciens qui idéalement portent une certaine sagesse. Donc ça se sent dans cette relation et j'espère que ça va vous donner le goût de l'aimer et de le connaître plus. Juste un petit sondage vite pour est-ce que vous pouvez lever la main virtuellement ou en personne, si vous connaissez déjà Jacques Dufresne. Oui. Pour les autres, ben, vous allez le découvrir, ça va me faire plaisir. Alors, sans plus tarder, je vais lancer l'entrevue et vous allez voir, je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, faites-moi signe quand vous l'entendez.
Promis d'introduire le sujet avec une citation de Gustave Thibon que j'avais déjà publiée d'avance dans la présentation de notre activité. Donc, je vais la relire ici. Et là-dessus, après la citation de M. Thibon, on verra où ça nous mène, on va rentrer dans une conversation un peu plus spontanée. Ça convient?
Ça me convient.
Alors, je la lis. Ne pas mourir est une chose, vivre en est une autre. Nous entrons dans une ère où l'homme cultive et multiplie les moyens de ne pas mourir. Par la médecine, le confort, les assurances, les distractions. Tout ce qui permet d'étirer ou de supporter l'existence dans le temps, mais non pas de vivre. Car l'unique source de la vraie vie réside au-delà du temps et contient aussi la mort dans son unité. Nous voyons poindre l'aurore douteuse et bâtarde d'une civilisation où le souci stérilisant d'échapper à la mort conduira les hommes à l'oubli de la vie. Je la refais avec une version plus courte. OK. Ne pas mourir est une chose, vivre en est une autre. Le souci stérilisant d'échapper à la mort conduira les hommes à l'oubli de la vie. là-dessus. Peut-être que vous pouvez nous parler de votre ami Thibault.
Ne pas mourir. Écoutez, Thibault, c'est inutile de vous dire que c'est Thibault qui était pour moi un ami personnel et un maître. Un ami comme vous l'êtes pour moi aujourd'hui, que je rencontrais souvent, avec lequel on avait des conversations sans fin. Notamment sur des sujets comme la vitalité. J'y reviendrai. Thibault était lui-même un grand vivant. Et à sa table, chez une amie commune, la vitalité revenait souvent parmi les sujets de conversation. C'est un sujet qui est un peu tabou parmi les philosophes, parce que qu'est-ce que la vitalité? Si quand on se trouve devant une personne comme Thibault lui-même, ou comme Victor Hugo, sans doute, de toute évidence, l'était aussi, quand on se trouve devant un être pareil, on est devant l'évidence de la vitalité. Pourtant, il y a aucun, je connais pas de définition de la vitalité qui soit, qui a été retenue dont on parle dans les cours de philosophie ou l'équivalent. Alors, donc, la vitalité, c'est à la fois une évidence concrète et un mystère. Mais pour revenir à la citation de tout à l'heure, ne pas mourir plutôt que de vivre, ça s'appelle durer. Alors, ça m'a amené très tôt tout ça à faire une distinction entre l'espérance de vie et l'espérance de durer. Mm-hmm. Ce qu'on appelle l'espérance de vie dans nos sociétés, ce dont on est si fier, ce qui est devenu l'objectif des pays. Vous remarquerez qu'on classe les pays en grande partie par l'espérance de vie. C'est pas l'espérance de vivre au sens où Thibault l'entend. C'est l'espérance de durer.
Oui.
Mais pourquoi durer?
C'est comme l'espérance de survivre. C'est pas...
Qu'est-ce que durer par rapport à vivre?
Mm-hmm.
La durée n'a de sens qu'en tant qu'elle est le lieu d'un accomplissement. Je me souviens quand mon vieux père, vers l'âge de 85 ans, a eu un malaise cardiaque. Je croyais qu'il allait mourir, mais les médecins m'ont rassuré en me disant « Non, c'est pas aussi grave que vous le pensez. » Et alors, j'ai compris qu'il fallait que mon père survive. Pas parce que c'est l'idéal de durer, mais parce qu'il avait besoin d'un peu de temps pour s'accomplir en tant qu'être humain. Il y avait une tristesse au fond de lui qui subsistait malgré tous les espoirs de ceux qui l'aimaient, qui auraient aimé qu'il en soit libéré. Eh bien, les dernières années de sa vie lui ont permis d'échapper à cette tristesse. Il est mort d'une façon sage.
Mm.
Donc, ce qui avait du sens, c'était pas sa durée en tant que telle. C'est que sa durée en tant que lieu d'accomplissement en tant qu'être humain. Or, ce qui me semble inquiétant, ce qui me paraît mauvais dans le monde, dans la situation actuelle, c'est que On veut durer pour durer.
Mm-hmm.
Et ça me rappelle, c'est dans cet esprit-là qu'on veut être immortel. Et alors, ça me rappelle une histoire qui est racontée dans un film de Borman qui s'appelle Sardas. C'est une histoire qui rappelle, qui me fait penser à ces milliardaires californiens qui veulent se réfugier dans une île artificielle pour échapper au malheur du reste de l'humanité. Dans le film de Borman, on est témoin d'une élite qui a trouvé le secret de l'immortalité, qui a vaincu la mort, mais qui ne veut pas partager son secret avec tout le monde, parce que c'est une chose qui leur permet de dominer le reste des humains. Ils se réfugient dans une citadelle qu'ils réussissent à défendre pendant des siècles. Mais un jour, les pauvres mortels qui sont autour d'eux réussissent à à briser le mur de cette citadelle et à y pénétrer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les habitants de la citadelle se jettent sur leurs épées, comme s'ils n'avaient plus qu'une passion en eux, celle de mourir.
Sur l'épée des assaillants.
Sur l'épée des assaillants.
Pour se, alors, comme pour si, se suicider, comme, en quelque sorte.
C'est comme si... ils étaient à ce point dans l'ennui, ils étaient à ce point insatisfaits d'être, de vivre de cette sorte d'immortalité que leur passion dominante devenait le désir de mourir.
Et vous, comment vous comprenez ça, cette
ce que je comprends par là, ce que je comprends par là, c'est que si l'être humain a une destinée éternelle, ce que je crois. Si l'être humain a une destinée éternelle, il ne peut accomplir cette destinée que par la mort. Si la mort n'est pas la porte de l'éternité, la vie n'est plus... l'autre forme d'immortalité est un cauchemar. L'immortalité pour, sur Terre pour durer. Remarquez bien qu'il y a une immortalité aussi dans la tradition, dans certaines traditions religieuses, il y a une immortalité qui n'est pas beaucoup plus réjouissante. Dans ce sens que si l'éternité c'est durer, mais durer dans un autre monde, c'est la même chose que durer sur Terre.
Toutes les traditions religieuses en tout cas, et certaines traditions philosophiques parlent de l'immortalité, ou de l'âme immortelle. Est-ce que vous avez peut-être... Ça a peut-être un lien avec ce que vous avez appelé la destinée...
La destinée éternelle.
La destinée éternelle. Donc, il y a une recherche de l'immortalité dans les traditions par des voies héroïques et mystiques qui a toujours été là. C'est un point commun de presque toutes les traditions spirituelles, on va dire. Et là, il y a une nouvelle religion, on va dire, dans notre culture, qu'on appelle le transhumanisme, qui semble nous promettre l'immortalité d'une manière beaucoup plus concrète, en nous disant qu'on est sur le point où c'est accessible d'avoir accès, bientôt, par la technologie, à l'immortalité du corps, ou, à tout le moins, du cerveau sur disque dur. Enregistrer le cerveau, ou l'âme, ou la conscience, puis de pouvoir la transférer dans un autre corps. Ou de faire durer ce corps éternellement. En tout cas, il y a toutes sortes de fantasmes autour de l'éternité comme étant interprétée comme la durée de la personnalité dans cette vie comme on la connaît. Donc, je me fais un peu l'avocat du diable, juste pour jouer, voir où ça nous mène. N'est-ce pas enfin qu'on va avoir accès à l'immortalité et que le transhumanisme va supplanter toutes les autres religions avant celle-là? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, l'immortalité dont vous parlez, ou le destin dont vous parlez?
Écoutez, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une conception de l'immortalité dans certaines religions qui ressemble à celle des transhumanistes, c'est-à-dire une durée. La durée ne peut pas être éternelle. La durée peut être illimitée et infinie, mais c'est pas ça l'éternité. On reste dans la durée. Et que la durée soit dans un autre monde ou dans celui-ci, c'est le même problème. Ça reste de la durée. C'est ce qui est désespérant, c'est de durer sans fin.
Et quelle différence vous faites entre la durée infinie et d'éternité? Intéressante nuance.
Pour moi, c'est le fond de la question est là. L'éternité, c'est... la fusion avec la source éternelle de vie, avec que l'amour entre des êtres humains inspirés et porteurs de divinité eux-mêmes, donne un avant-goût.
Est-ce qu'on peut dire que cette éternité-là, c'est une qualité plutôt qu'une quantité?
C'est une qualité, une pureté, plutôt qu'une quantité ou qu'une durée. Alors, je reviens au vers de Corneille qui m'avait tant frappé quand j'étais jeune. Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire, cette sorte de vie est bien imaginaire, et le moindre moment d'un bonheur souhaité vaut mieux qu'une si vaine et froide éternité. Ce qu'il appelle la vaine et froide éternité, c'est ce que j'appelle la durée. Que ce soit dans l'autre, dans un autre monde, ou dans celui-ci, comme c'est le cas pour les transhumanistes. Alors, c'est à la durée que c'est de, à la durée qu'il faut échapper. Il faut pas confondre ce que certains appellent jouir de l'instant présent, en voulant dire par là aller au bout de tous les plaisirs de l'instant et échapper au temps. C'est échapper au temps par l'intensité et la pureté de l'amour. Vous savez, le temps, je vais faire allusion à Saint-Augustin, là. Qu'est-ce que le temps? C'est un avant et un après. C'est l'éclatement de l'instant. C'est l'étalement de l'instant en un avant et un après. L'éternité, dans la mesure où on peut en avoir une image, c'est la résolution de l'après et de l'avant dans l'instant. Ça suppose un moment d'attention, qui est un moment d'amour suprême et de fusion, de ce que j'appelle la fusion avec le principe vivant divin.
Alors, on cherche désespérément le temps de qualité, et on est berné peut-être. On a besoin de ce temps de qualité qui est assimilable à l'éternité, donc, que vous décrivez, mais on se laisse berner par la recherche du plus de temps, ou de la durée. On voudrait avoir plus de temps libre, mais au fond, ce dont on a besoin, c'est de temps d'intégrité, de qualité et de profondeur vécu avec tout le cœur et toute l'âme, toute la présence. En tout cas, je pense que c'est une expérience que les gens, à laquelle les gens peuvent se relier et faire un lien entre l'éternité dont on parle et leurs besoins intimes, vital, le besoin vital de cette éternité-là. Il est souvent nommé comme le besoin de temps de qualité.
J'écoutais une voisine récemment avec qui me conduisait vers la maison ici. Il y a un kilomètre d'ici, on a une vue exceptionnelle sur le paysage. Que chaque fois que je revois notre paysage depuis cette colline, j'éprouve le même sentiment d'euphorie profonde, un sentiment de beauté qui est presque un sentiment du sublime. Et puis, la jeune voisine qui conduisait la voiture, et récemment, quand j'ai revu ce paysage, n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer que c'est beau. Pourtant, ce n'est pas une mystique, ce n'est pas une intellectuelle. Mais ça m'a rappelé que je connais pas d'êtres humains qui n'ont pas un certain sens de la beauté. C'est un sentiment vraiment universel. Et qui est la porte d'entrée vers une forme d'éternité, vers une forme d'unité. La porte d'entrée...
Complètement. Depuis plusieurs mois, c'est une expérience un peu personnelle, mais j'ai l'impression d'être constamment inondé ou submergé par la beauté, à tel point que ça devient... je me sens impuissant à absorber la beauté du monde. Et ça a un rapport avec une ouverture du cœur, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de faire un lien avec le paysage que vous décrivez. Pour les gens qui nous écoutent, on se trouve dans les stries, donc tout près de Coaticook. Alors c'est très vallonneux, et moi aussi, à chaque fois, comme cette dame dont vous parlez, à chaque fois que je conduis dans la région, même si j'y habite depuis plusieurs années, à chaque fois, je me dis: quel beau pays! Et puis à chaque fois, je me sens nourri et avec un sentiment de gratitude et de juste d'être heureux et d'être bien. C'est la gratitude pour une chose qui, comme vous l'avez dit, ça a rien de mystique, là, ça a rien de très.
C'est l'aspect le plus séduisant de la beauté du monde que nous évoquons là. Mais la beauté du monde, c'est autre chose. C'est plus profond que ça. Qu'il s'agisse de Simone Veil ou de Marc Aurèle ou de Thibon. Quand il parle de la beauté du monde, il parle des beaux paysages inspirants dont nous parlons nous-mêmes. Mais il n'oublie pas que le monde est aussi le lieu du mal et du malheur et des accidents et des catastrophes.
Il intègre
ça à la beauté du monde. Alors là, ça nous oublie, ça nous plonge dans un mystère qui est aussi effrayant que celui de la mort. Et parce que, au fond, ça nous oblige à une telle adhésion à la beauté du monde que implique une acceptation du mal. Implique que le mal nous apparaisse comme étant partie de la beauté du monde.
Les stoïciens appelaient ça. Est-ce que c'est ce que le stoïcien appelait
la mort
fatie?
Il y a de ça.
Aimer ce qui est.
Il y a de ça. Mais pourquoi aimer ce qui est? Si vous poussez la réflexion un peu loin, c'est que le sens du mal et du malheur, c'est la liberté. La liberté n'existe que parce que le mal et le malheur existent. S'il n'y avait pas de mal ou de malheur dans le monde, nous n'aurions pas à faire le choix de la beauté, à faire le choix de la sagesse, de l'accomplissement. Et faire ce choix plutôt que de rester dans la caverne, c'est ça la liberté dans ce qu'elle a de plus essentiel.
OK. Ça, c'est justement le lien qui connecte le film dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Ça connecte avec la pièce de théâtre de Thibon, Vous serez comme des dieux, dont vous pourriez certainement nous parler tout à l'heure. Ça connecte avec le meilleur des mondes. Toutes des univers soi-disant idéal, un univers idéal dans lequel la liberté n'existe pas, et de ce fait, ce n'est plus l'idéal, ce n'est plus vivre. Même si on a toutes les caractéristiques de la vie parfaite, dès qu'on enlève le mal, la mort, la maladie, la souffrance, ce n'est plus.
Si on enlève tout ce dont vous parlez, écoutez, quel mérite y aurait-il à choisir la lumière si avec la lumière? C'est dans la mesure où on a le choix entre l'obscurité et la lumière que l'obscurité enferme bien des plaisirs, a bien des avantages résolus à elle-même, mais elle n'est pas la lumière. Alors ça, là, vous me mettez sur une piste qui m'oblige à parler un peu de la liberté. Dans le contexte que vous avez si bien évoqué actuel, la liberté, c'est le choix.
Mm-hmm.
On est libre et on veut... Pourquoi est-ce que c'est lié? La liberté comme choix, non pas entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Ça, c'est la liberté fondamentale. Mais la liberté à la mode aujourd'hui, c'est le choix entre des projets et des objets. Le choix de destination d'un voyage. Le choix de telle voiture plutôt que de telle autre. Et c'est dans la mesure où on considère la liberté comme étant ce type de choix qu'on veut durer pour faire durer les choix en question. Et c'est aussi la réduction de la liberté à ces choix qui rendent la vie, la durée indéfinie, absurde et désespérante à la longue. C'est parce que à force d'avoir l'illusion de choisir le bien, la lumière quand on choisit un projet ou un objet, on finit par devenir blasé. D'où l'expression « ils sont revenus de tout sans être allés nulle part ». Pour nous aujourd'hui, le choix au sens de choix des projets, des objets, est devenu si important pour nous que la chose bonne, nous ne choisissons plus la chose bonne, le bien. C'est ce que nous choisissons qui devient le bien.
Ah, ça...
C'est parce qu'une chose parce que nous avons choisi une chose qu'elle est bonne.
Oui.
C'est ça le renversement, l'inversion des valeurs, Je reviendrai à la pièce. Vous faisiez allusion à la pièce de Gustave Thibon, Vous serez comme des dieux.
Oui.
Une pièce écrite en 1956, alors qu'on ne connaissait pas les théories permettant. permettant de manipuler les gènes comme on le fait aujourd'hui. Alors, il a imaginé un monde où on avait triomphé de la mort. Et ce que, dans la description qu'il fait de ce monde, il nous présente des savants qui sont aussi des sages. Ce ne sont pas des savants comme ceux de Huxley dans Le Meilleur des Mondes, mm-hmm. qui sont ivres de pouvoir, de puissance. Ce sont des gens cultivés qui aiment la beauté, qui la recherchent, qui rêvent de voyages intergalactiques pour éprouver le sentiment de la beauté de l'univers. Donc, des êtres d'une grande qualité intellectuelle.
Donc, Le Meilleur des Mondes de Huxley, le lecteur a vite compris que c'est pas vraiment Le Meilleur des Mondes. Mais Le Meilleur des Mondes de...
c'est vraiment Le Meilleur des Mondes.
On s'y associe, on y croit.
On y croit, puis il y a des choses... Puis il y a pas de contrôle est subtil, beaucoup plus subtil que dans Le Meilleur des Mondes de Huxley. Et la question qui est posée par ce roman-là, par ce livre-là, c'est choisir d'être humain, comme disait Dubos, c'est choisir de mourir. La question qui est posée, l'héroïne de la pièce, elle s'appelle Amanda. Elle fait partie d'une famille, de la famille de savants qui ont réussi à trouver le secret de l'immortalité, qui dirige ce monde-là de façon sage, prudente. Mais l'héroïne Amanda, elle s'appelle Amanda, justement, qui vient du verbe aimer en latin, choisit de redevenir mortelle. Et elle choisit de redevenir mortelle en vivant un amour avec un des chefs du pays, qui lui aussi renonce à son immortalité terrestre, parce que il a le pressentiment, il a deux pressentiments. D'atteindre un état de joie, de perfection, impossible dans la durée. Mais aussi une autre dimension importante, qui est le sentiment de retrouver les morts du passé. Les morts du passé, évidemment, les morts sont du passé.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-moi, le personnage en question, c'est quoi son rôle dans la cité?
Elios, son nom, si ma mémoire est bonne, c'est Elios. Soleil. Mais il fait partie du groupe de savants qui ont réussi à manipuler les gènes pour donner l'éternité aux gens, qui n'est pas l'éternité des transhumanistes. Là, c'est une éternité plus subtile, disons. Une immortalité, j'ai confondu les deux.
Une immortalité bien conçue, on va dire.
Ce que je retiens surtout, c'est que mourir, c'est retrouver les morts, c'est retrouver les morts du passé. Mourir, c'est retrouver Antigone, c'est retrouver le Christ, c'est retrouver Socrate. Tandis que durer, c'est rester toujours avec les mêmes.
Mais est-ce que c'est pas aussi rester le même?
Rester le même.
Est-ce qu'il n'y a pas une mort dans rester le même?
Oui, moi, une stagnation. Le message de Thibon, c'est rester le même. Cette pièce m'a beaucoup marqué pour une raison très simple, c'est que dans le monde actuel, très peu de gens avoueraient qu'ils se sentent déjà dans cette humanité qui a vaincu la mort.
Ils se comportent comme tel.
Ils se sentent déjà comme ça.
Dans le sens qu'ils vivent de manière insouciante comme s'ils allaient vivre toujours.
Oui. Mais en même temps, ils tiennent à durer le plus longtemps possible parce qu'ils sentent que c'est tellement endurant le plus possible dans n'importe quel état qu'ils vont s'accomplir.
Mais en même temps, il y a une terrible angoisse de justement. Oui, on sait qu'on s'accomplit pas en fait.
D'où le choix de la mort dans la pièce qui devient le choix de l'amour et le choix de la véritable éternité. Je considère Antigone comme étant une représentante des grands vivants qui honore l'humanité. Alors, ces grands vivants-là sont pas des suicidaires. Mais ce sont des gens qui, sauf exception, mettent des valeurs au-dessus de la vie. Antigone, elle prend le risque de mourir parce que les devoirs dus à l'âme de son frère sont plus importants à ses yeux que sa propre vie. Alors, quand notre propre vie devient la valeur absolue, la valeur dominante, toutes les autres valeurs ont tendance à s'effacer.
Mm-hmm.
À disparaître. C'est ça le nihilisme.
Il suffit d'être menacé pour être soumis, alors.
C'est ça le nihilisme. Mm-hmm. N'avoir plus d'autre valeur que sa propre durée. Et il faut bien reconnaître qu'il y a dans le monde actuel une forte propension à ce genre de une forte tendance vers ce genre de nihilisme.
Mm-hmm.
Et, bon, il y a aussi la guerre en Ukraine actuellement. Vous me direz quel est le lien entre ce que je viens de dire et la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens, depuis le début de cette guerre, qui dure depuis maintenant 9 mois, beaucoup de gens ont été fascinés par le courage des Ukrainiens en particulier. Moi, à mon avis, il n'y a pas juste en cause la victoire de la démocratie. Il y a une chose beaucoup plus profonde qui est en cause. C'est que beaucoup de ces Ukrainiens-là ont placé une valeur qui était le patriotisme. Un patriotisme que j'assimile à ce que Simone Veil et Finn Kielkraut appelaient le patriotisme de compassion. L'attachement à une cité.
Un amour.
L'amour d'une cité qui fait qu'on est prêt à mourir pour elle. Moi, je crois que beaucoup, en Occident, le soutien accordé aux Ukrainiens tient en partie au fait que ils prennent le risque ils mettent une valeur au-dessus de leur propre vie. Et c'est ce qui en fait des grands vivants.
C'est le thème de tous les films de héros, de tous les mythes même d'héroïsme, où le héros, c'est celui qui réussit à risquer sa sécurité pour une cause ou une valeur qu'il considère supérieure à sa survie.
Mais c'est pas mort dans les mentalités, ça, parce que effectivement. Dans nos sociétés, dans les bulletins de nouvelles, quand un plongeur, par exemple, je sais que vous aimez la plongée,
oui.
Quand un plongeur se porte au secours d'une personne qui est en train de se noyer à ses risques et périls, la sauve, les gens l'admirent. Ce qu'ils admirent, c'est la capacité chez l'être humain de placer des valeurs au-dessus de leur propre vie. Et cette capacité, peut-être qu'elle est la plus belle preuve de l'existence de l'âme humaine.
Ah, ça me fait penser à Guillaumet et l'ami de Saint-Exupéry.
L'ami de Saint-Exupéry.
Qui s'écrase dans les Andes avec son avion. Il me semble que c'était dans les Andes. Et qui... ils l'ont perdu. Ils essaient de le retrouver en avion. Lui-même essaie de s'en sortir. Il attend les secours un bout de temps, puis après il essaie de s'en sortir, mais... C'est les Andes, c'est de la neige, c'est le froid. Vous connaissez l'histoire, mais je la raconte pour les gens qui nous écoutent. Alors, Guillaumet... un aviateur dont l'avion s'est écrasé, essaie de sortir par lui-même la cordillère des Andes. Bref, il pense à ça, puis il commence à mettre des pierres sur son corps, tout prêt à mourir, et il se dit, tout d'un coup, « Merde, si jamais on retrouve pas mon corps, ma femme n'aura pas l'assurance. » Des conditions, des considérations très matérielles, mais en même temps généreuses. Et surtout, il se dit, les compagnons pensent que je marche. Ma femme pense que je marche. Et si je ne marche pas, je suis un salaud. Et il s'enlève ses pierres, puis il recommence à marcher, puis finalement, il réussit à sortir de son trou. Il est récupéré par des villageois. Et quand enfin il retrouve son ami Saint-Exupéry, la première chose qu'il lui dit, à moitié mort, il lui dit, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait.
Écoutez, c'est trop touchant.
C'est l'humanité qui s'exprime dans quelque chose. Il était prêt à mourir, mais il a transcendé sa propre existence à cause d'une force fondamentalement humaine dont il dit qu'aucune bête ne l'aurait fait. Et c'est d'une profonde beauté.
Mon cher ami, je suis très touché parce que au début de votre récit, je connaissais cette histoire. J'attendais, j'allais vous dire la citation en question, que j'ai fait jamais aucune bête ne l'aurait fait. Mais ça va m'amener à prendre la défense des bêtes.
Oui. Je le dis pas pour...
Non, je sais, mais...
Minimiser.
Non, mais il y a quand même... C'est juste, mais il y a des exemples de bêtes d'un courage semblable.
Revenons un peu à la dignité dans la mort, là. Parce que vous avez parlé des animaux. Ça me donne envie de raconter une anecdote. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ma rate. Pas mon organe, mais ma rate. Un rat, la femelle rat. Mes enfants avaient deux rates. Et il y en a une qui est morte assez vite, mais il y en a une qui est morte avec une immense tumeur, presque grosse comme son corps. Malgré qu'elle est... Puis ça a duré longtemps. Et puis, malgré qu'elle était extrêmement malade, manifestement, chaque matin, elle était toute contente qu'on aille la voir, puis elle était de bonne humeur, et elle nous a donné une leçon de dignité. À la fin, c'était terrible, physiquement. Je raconte pas les détails, mais c'était une mort terrible. Et jamais cette petite rate-là, elle a eu un seul signe de mauvaise humeur ou de... Peut-être un peu moins d'énergie, mais toujours la joie manifeste de nous voir le matin, puis l'attachement, sa forme d'amour à elle, quoi. Comme autant qu'une rate peut aimer des humains. Et de côtoyer la mort chez cet animal-là a été une grande leçon de vie, finalement. Puis aujourd'hui, je réalise qu'on est de moins en moins en contact avec la mort.
Écoutez.
Surtout la mort des humains, on la cache. La mort des animaux, on va les
voir. La mort des animaux, ça m'amène à revenir.
La mort des animaux, on en est les complices industriels, parce qu'on mange une viande industrielle. Et je veux pas rentrer dans un long débat accusatoire, mais on les cache. On cache ces choses-là, dont on est en passant complice. Mais c'est tout caché. Donc on ne fait pas face à la mort, ni des humains, ni des animaux. J'ai toujours pensé que si on tuait nos animaux nous-mêmes, on mangerait beaucoup moins de viande.
Ça m'intéresse beaucoup.
Mais c'est notre contact, on est privé du contact avec la souffrance, avec la mort, comme si c'était tabou. Et ça nous prive d'une forme de conscience qui rendrait la vie plus savoureuse, plus précieuse, plus digne. Et j'aimerais ça qu'avec ça, on revienne un peu vers notre introduction qui était de... Le lien entre la conscience de la mort et le côté sacré de la vie.
Alors, ben, pour revenir à la question plus prosaïque de la consommation de la viande.
Oui, pas trop longtemps. Je sais qu'on pourrait se perdre là-dessus.
non, d'accord, mais juste pour vous dire que nous avons eu au début de notre vie dans notre ferme ici, nous sommes ici depuis 50 ans, nous avons élevé des cochons. Nourri avec les restes du meilleur restaurant de la région. Qui avait une vie heureuse. Mais nous tenions à participer à l'opération
d'abattage.
Il y avait des voisins qui savaient comment saigner le cochon. C'était tragique. C'était pénible. Mais ça donnait du sens au fait de le manger ensuite. Parce qu'on avait assumé, on n'avait pas de délégué. Ce qui me paraît un peu inquiétant aujourd'hui, c'est que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai hésité à propos de la mort des bêtes. On délègue à la médecine ou à la boucherie industrialisée.
Beau parallèle. excusez-moi d'en rire.
On délègue à la médecine le soin de vivre avec la bête, vivre sa mort avec la bête. On prive la bête dans ce contexte-là, on prive la bête de sa mort et on prive les humains de la mort de la bête. Tout ça sous prétexte d'hygiène. Aujourd'hui, je pense que si des gens apprenaient que nous avons gardé des chiens, nous avons laissé mourir nos chiens dans nos bras, ici à la ferme, on nous reprocherait une certaine cruauté parce qu'on n'a pas utilisé l'euthanasie médicalisée.
Comme la mort maintenant, là c'est un autre débat extrêmement délicat, mais je ne veux pas faire un débat, mais on est à l'ère de l'aide à mourir dignement. Ouais, et il est vrai que des gens vont mourir dans des souffrances atroces, puis il vaut mieux avec compassion mettre fin à leur souffrance. Puis je pense que dans cette l'aide à mourir de cette manière-là a existé de tout temps.
Oui, oui, parce okay. que écoutez, mais, au 19e mais, siècle, il y avait la morphine déjà.
Ah oui, puis à d'autres époques, il y a eu d'autres armes ou d'autres moyens de mettre fin à la souffrance d'un être humain. Puis ça a certainement été pratiqué avec beaucoup de compassion, de manière héroïque. Tu sais, je pense sincèrement que, par exemple, un mari qui a vécu toute sa vie avec son épouse pourrait à la fin décider de l'aider à mourir avec une... en portant une immense responsabilité. Et je pense que ça a existé dans toute l'histoire de l'humanité. Ceci étant dit, puis là, je veux pas rentrer dans une critique sociale. J'ai aucune compétence pour juger de l'aide à mourir, puis j'ai des proches qui veulent faire appel à ça, puis je les respecte complètement. Mais il reste que... il y a quelque chose dans ça qui est le refus de la mort telle qu'elle est. Puis bizarrement, il y a un paradoxe entre le fait de vouloir vivre pour toujours puis en même temps de vouloir choisir le moment et la manière de sa mort. Et ça pose la question de l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Et c'était... bon, là, je lance des immenses questions.
Oui, vous les lancez bien.
Mais ça vient toujours... c'est toujours autour du thème de l'acceptation de la vie et de la mort qui va un peu main dans la main. Et si on refuse la mort, la maladie, l'infirmité, la souffrance, on est en train aussi de refuser la vie comme elle est.
On est en train de refuser la liberté aussi. Je le répète, il n'y aurait pas de liberté si le mal et la souffrance n'existaient pas. Là, vous me mettez encore une fois sur une piste que je vais oser emprunter, tout de même. Tôt pâteille, Matos.
Matos, on retrouve notre fil en quelque part. Je voulais qu'on parle de ça, merci.
Tôt pâteille, Matos. Oui. Ça, c'est un... Matos en grec, ça veut dire science. Le mot mathématique vient de ce mot grec. Pâteille, c'est la souffrance. La science par la souffrance.
Le bouddhisme, les philosophes du bouddhisme disent la souffrance est véhicule de conscience.
Alors, la science par la souffrance. Vous sentez sans doute par le moment, ne serait-ce que par ma voix, que je suis sur une pente descendante. Je suis sur la pente descendante.
Disons que vous êtes plus près de la vieillesse.
Je suis plus près de la mort que de la naissance. Un peu. Et j'ai des moments, chaque jour, je suis pas un martyr, je ne souffre pas démesurément, mais je souffre chaque jour. Trop. Mais sans jamais désespérer de mieux connaître l'essentiel grâce à cette souffrance. Non seulement je n'ai pas le culte de la souffrance comme telle, et je vais aller vers les plaisirs, et les joies de chaque jour qui me seront offerts. Mais quand de toute façon la souffrance est là, le meilleur usage qu'on peut en faire, c'est de se recueillir pour voir ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Et pour moi, c'est ça l'accès à la vérité. Fondamentalement, c'est de se décider. Ça fait mal.
Ah, ok, ok.
Vous avez dit quelque chose la vérité qui fait pas mal, c'est une vérité qui enferme souvent de la complaisance.
Ah.
Parce qu'on se console d'avoir découvert un défaut en soi-même, à la pensée qu'on l'a soi-même découvert. Mais quand un défaut nous est indiqué par un autre, d'une façon directe, sans complicité de notre part, quand un défaut nous est révélé par la vie, par l'expérience.
Ou un frère, ou une sœur.
Alors là, ça fait mal. Et c'est comme ça que nos yeux s'ouvrent peu à peu. C'est dans ce sens-là que On peut dire que la souffrance est la porte du savoir. Il n'y a aucun masochisme dans tout ça. Il y a le simple, c'est une simple façon de bien de donner son plein sens à la souffrance.
Une des choses que j'apprécie beaucoup de notre conversation actuelle, c'est que elle a complètement quitté le. J'avais pris quelques notes pour au cas où on ait besoin de se stimuler un peu, mais on a complètement improvisé. Donc tant mieux. Puis je
me suis abandonné à mon amitié pour vous.
Eh ben c'est réciproque. J'ai beaucoup apprécié. Mais là je vois le temps qui passe, donc j'ai envie d'essayer de condenser ou de revenir un peu de conclure. Je reviens à la phrase de Marc Aurèle. C'est quelque chose que vous avez cité aussi dans cet enregistrement que j'ai entendu dans les leçons tirées d'un séjour à l'hôpital. Puis je trouve que c'était directement relié au thème de vivre et mourir, apprendre à vivre, apprendre à mourir. Et c'est cette phrase de Marc Aurèle qui compte parmi vos, ce que vous appelez vos talismans intérieurs, qui dit « C'est l'idée de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. » Marc Aurèle ajoute des choses à ça. C'est pas juste ça, c'est aussi, là je le dis de mémoire, mais c'est ne pas se plaindre, ne pas faire semblant, ne pas sommeiller, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et cette idée-là est quand même un peu à la mode. On entend ça quand même, mais les gens ne savent pas que ça vient de Marc Aurèle, du stoïcisme.
Ça pourrait venir de Sainte Thérèse d'Avila aussi, qui est sa fameuse prière, sa célèbre prière. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu seul demeure. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, c'est... Elle est proche de Marc Aurèle quand elle parle ainsi. Mais dans mon esprit, pourquoi cette pensée est-elle si importante, c'est que... C'est une réflexion sur la vie quotidienne qui m'a rapproché de cette réflexion-là. Aujourd'hui, mettez-vous à la place de nos ancêtres qui, quand ils partaient pour les chantiers, pour le bois le matin. Hein?
Oui.
La femme restait seule à la maison. Vigneault l'a chanté, cette femme qui est la femme est seule à la maison. Mais chaque fois, chaque départ était une petite mort. Partir, c'est mourir un peu. Mm-hmm. C'est ce disent les chansonniers. Chaque départ était une petite mort. Et la vie des gens était faite de ces petites morts parce que chaque retour était un petit miracle. Le départ comportant des risques était une entrée dans une condition de la vie et une façon d'échapper au mal, le pire mal de ce siècle de tous les temps peut-être, qui est l'indifférence. Mm-hmm. Les hommes n'ont jamais été séduits par, n'ont jamais couru autant qu'aujourd'hui le risque de l'indifférence parce que partir, c'était toujours mourir un peu. Parce qu'on partait et on revenait. Et alors là, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dans ce sens-là, vivre chaque instant comme si c'était le dernier, c'est simplement la vraie vie. Parce que ça peut être le dernier.
OK. Oui.
Parce que ça peut être le dernier. Et alors, c'est le fait qu'on pense que ça peut être le dernier qui fait que quand la personne, on la retrouve, on a le sentiment du miracle. Encore une fois, cette pensée-là, c'est le remède à l'indifférence.
Ouais.
Le pire des mots, parce que la mort sous son aspect le plus négatif, c'est l'indifférence.
Ou la sécurité, c'est-à-dire, si j'avais la certitude que je vivrais encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y aurait une platitude, non? Il y aurait quelque chose, il y aurait une indifférence. Et sérieusement, je pense que les gens vivent à tort dans cette... Les gens, bon. Je pense que notre culture nous incite à faire comme si on allait vivre toujours. Par exemple, dans tout le souci qu'on a de la planification de tout, planification financière avec la retraite et les... On planifie d'une manière... On optimise notre vie. Notre vie fait du sens lorsqu'on la regarde de l'extérieur. Elle est optimisée, elle est... gérer intelligemment en fonction de l'idée qu'on va vivre jusqu'à 90 ans. Parce que là, on fait beaucoup de sacrifices dans le présent, on met derrière, etc. On veut payer aujourd'hui pour le fait qu'on ne sera pas capable de payer plus tard. Et tout ça fait beaucoup de sens d'une manière raisonnable lorsqu'on est prévoyant. Mais en même temps, c'est que cette mentalité de l'optimisation, c'est comme s'il y avait un petit juge sur notre épaule qui dit qu'il faut prendre la bonne décision, la meilleure décision. Et la meilleure décision, c'est toujours la décision soi-disant rationnelle qui va optimiser les chances d'être confortable à la retraite à 90 ans. Mais la réalité de la vie, c'est que je sais que je vais mourir, je l'oublie, mais c'est une certitude absolue. Et le paradoxe, c'est qu'il y a une incertitude absolue qui est je ne sais pas quand je vais mourir. Donc, c'est très étrange. On vit dans un corps qui a des lois dont on fait abstraction. Mais si on y revient, on sait avec une absolue certitude qu'on va mourir. Et on sait aussi qu'on n'a aucune idée quand. C'est un grand, grand paradoxe.
Vous me faites voir un autre aspect. Vous me faites voir un autre aspect. Je disais que du mal et de la souffrance. Je disais tout à l'heure que le mal, le sens du mal, c'est la liberté. On pourrait dire aussi que le sens du mal et de la souffrance, c'est l'amour dans ce sens que l'être aimait ce que dans les talismans intérieurs dont vous parliez tout à l'heure, je crois que je cite aussi ce vers de Vigny. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. Quand on a la conscience de la fragilité de la vie des êtres humains, du mal auquel ils sont exposés, des risques qu'ils courent, on sent qu'on les reverra peut-être plus. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois. On les aime d'autant plus et d'autant mieux qu'on sent leur fragilité.
Pour ceux qui se demandent de quoi on parle avec les talismans intérieurs, c'est une expression de Jacques qui est, ben, voulez-vous le résumer? C'est quoi, en 30 secondes, c'est quoi un talisman intérieur?
Un talisman intérieur, c'est une pensée, souvent un poème, souvent une pensée d'un sage, comme un simple vers, qui a pour effet de nous redresser, de nous réanimer. Lorsque nous tombons, lorsque nous sommes sous un choc, lorsque nous sentons tomber en dépression. Par exemple, parmi les talismans, pour moi, un talisman intérieur, c'est un des deux vers de Victor Hugo sur Sophocle quand il était jeune. Le poème s'intitule Sophocle à Salamine. C'est le jeune Sophocle qui s'en va à la guerre, qui sait qu'il va probablement mourir, et qui dit « Je veux bien mourir aux déesses, mais pas avant d'avoir aimé. » Pour moi, deux vers comme ceux-là, et il y en a une infinité dans la culture universelle, des pensées de ce genre-là, d'où le fait que c'est pas la nourriture qui nous manque aux êtres humains, c'est l'appétit. Ça. Alors, quand je veux bien mourir au DS, mais pas avant d'avoir aimé, c'est un beau résumé de l'essentiel de la vie, parce que de deux choses l'une. Ou bien on n'a pas aimé, et alors on est inconsolable. Ou bien on a aimé, mais on regrette de ne pas avoir aimé encore plus. Car la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est pas moi qui dis ça, je me demande si c'est pas un père de l'Église ou un saint dont j'ai oublié le nom.
La mesure de l'amour,
c'est d'aimer sans mesure. Évidemment. Mais c'est tout ça qu'enferme un talisman intérieur. Pour moi, les deux vers en question que je viens de citer, ils enferment ces grandes vérités. Puis c'est pas nécessaire de les expliciter, ces vérités, pour en être nourri. D'où l'importance de l'art, de la poésie, de la beauté sous toutes ses formes. Pour moi, un talisman intérieur, c'est aussi le souvenir d'un tableau. Il y a un tableau qui m'a profondément marqué, dont je me souviens presque tous les jours, qui me fait revivre constamment. C'est un tableau de Rembrandt que j'aime beaucoup. Rembrandt, le peintre de la lumière, qui est aussi vie et chaleur. Le tableau s'intitule Aristote contemplant le buste d'Homère. Alors, c'est les deux pôles de l'histoire de la Grèce. Le vieux poète qui est aveugle. Et qui, quand même, de ce vieil homme aveugle tombe une lumière qui éclaire Aristote. Qui marque la fin de la grande époque de la Grèce. Et alors là, ce tableau enferme à mes yeux non seulement l'histoire, un résumé de l'histoire de la Grèce, mais le mystère de la lumière qui est vie. Et puis, le lien entre les générations, la filiation, la transmission. Et encore une fois, on pourrait écrire un traité. On pourrait écrire un traité complet de philosophie, juste pour expliciter ce qu'enferme un tel tableau.
Je vous interromps là-dessus, parce que je sais que le temps passe. Puis je trouve que c'est une excellente conclusion de cette filiation entre les générations. Ou c'est comme ça, comment vous l'avez dit?
Filiation entre les générations.
Bon, exactement. Je voudrais vous remercier pour l'entretien, puis pour le faire, peut-être célébrer cette filiation entre les générations qui se ressent si bien entre nous. C'est une belle rencontre, une belle amitié qu'on a eue depuis quelques années. Je vous en remercie. Je vous considère comme un vieux sage et un maître à penser. Et puis c'est toujours un grand bonheur d'échanger des idées avec vous, Jacques. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec d'autres, parce que je sais que votre rayonnement dans la vie philosophique du Québec est accompli, et que par conséquent les plus jeunes générations le voient moins, mais à chaque fois qu'on a des conversations, vous et moi, sur des sujets brûlants d'actualité, vous avez toujours 50 ans d'histoire de la pensée extrêmement actuelle à me ramener sur la table pour nourrir la réflexion.
C'est moi qui vous remercie. Je vais vous dire quelque chose. Je suis fatigué. Je suis encore vivant, mais plus fatigué que... fatigable facilement. Et je me suis demandé jusqu'à la dernière minute si j'aurais la force de répondre correctement, convenablement à vos questions, d'avoir un entretien qui soit digne de vous et de nous deux. Et je me suis abandonné. Quand vous m'avez téléphoné il y a 2 heures pour m'avertir que vous veniez, je ne savais pas encore si je pourrais répondre correctement, convenablement à vos questions. Et j'ai un sentiment d'accomplissement d'autant plus grand que je ne me savais plus capable d'une chose pareille.
Alors, on va remettre ça. Vous serez encore capable dans un bout de temps. On va remettre ça, c'est sûr.
Bon, quelle conclusion. Vous avez peut-être compris que Jacques n'est pas dans sa plus grande forme de sa vie, avec l'âge qu'il a. Ben, c'est ça, c'est précieux de pouvoir avoir des conversations avec des gens qui vont disparaître et qui menacent d'amener avec eux leur trésor particulier. Et ça s'adresse à... La même réflexion s'adresse à nous tous. C'est-à-dire qu'on peut disparaître aussi du jour au lendemain et emporter avec nous le trésor qui nous appartient. Alors, c'est comme ça que je voudrais ouvrir la causerie. On va se donner... Bon, on va se donner du temps. À vous la parole, maintenant. Monsieur ou Madame Saint-Louis et Vanessa, ça serait le moment de retourner à votre caméra, si vous voulez bien, pour participer à la causerie. Merci. Et je vais vous laisser prendre la parole pour le moment. Vous avez juste à vous manifester. Vous avez besoin d'aide, je vais vous demander. Est-ce qu'il y a des idées qui vous ont plus particulièrement touché? dans cette conversation.
Entre vous et moi, il y en avait vraiment beaucoup là, de sujets de conversation dans là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on élaborait sur le côté de la vie qui dure plutôt que de nous qui vivons finalement. Donc, l'espérance de durée plutôt que l'espérance de vie, c'est quand même intéressant, puis ça fait réfléchir. Sur vraiment qu'est-ce qui fait la différence en fait. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on vit ou qu'on survit. Fait que je sais que vous avez dit que c'était une question de moments de qualité. De moments de qualité, puis je comprends aussi que le fait de être conscient de la souffrance puis conscient du mal du monde, tu sais l'expression what doesn't kill you make you stronger. Ben ça, j'ai l'impression que ça peut disons aider à trouver une voie vers laquelle mener vers des qualités de vie, des moments de qualité avec une belle qualité de vie, de sorte que on peut avoir l'impression de vivre plutôt que de durer. C'est ouais. Selon moi ce que je retiens de tout cela.
Merci. Notamment. C'est quoi ton prénom?
Ah, c'est Dania, mais ça te disait que c'est Dania, c'est Louis, mais ça te disait qu'on devait mettre le nom de famille, fait que j'ai mis mon nom de famille.
Ah, ok, j'imagine que ça devait être les deux, là. C'est pas grave. Dania, ok, merci de ton intervention. Ça me fait penser, genre, moi, d'abord, quand j'ai parlé de temps de qualité, c'était très mal dit. Ce que je voulais dire, c'est le temps sacré, en fait. C'est de mettre de l'âme dans notre expérience et de retirer de nos... de pas juste vivre les événements comme une série de choses qui se passent dans notre vie, mais en tirer une essence, donc une expérience consciente. Et c'est ça qui donne la qualité, selon moi, au temps. C'est pas nécessairement de... Et des fois, on dit on prend du temps de qualité, c'est pas d'aller manger un bon repas au restaurant, c'est de... Bien que personne n'est contre, hein, mais c'est de retirer la substantifique moelle des expériences de la vie pour ne pas être tout le temps le même. Donc, de durer dans notre état actuel tout le temps de notre vie, comme s'il fallait rester jeune. Et bon, si on veut, en tout cas, en tant que philosophe, on veut évoluer aussi.
Ouais, mais c'est quoi exactement l'état de conscience, selon vous, de point de vue philosophique?
Excuse-moi, ta question, je la comprends pas bien. C'est quoi l'état de conscience?
L'état de conscience, oui.
Ouais. Ben, quelque chose que j'ai reconnu dans ton propos, je pense. C'est, en anglais, ils disent growth mindset. L'idée de un état d'esprit qui permet de se développer intérieurement. Et non pas un état d'esprit qui permet de protéger son état actuel pour toujours.
Ouais,
je donne une analogie, puis c'est boiteux, mais c'est juste pour illustrer. Quand mon fils avait 3-4 ans, déjà, il montait dans les arbres. Je pense qu'il montait dans les arbres avant de savoir marcher, hein, presque. J'exagère. Et quand, en tant que parent, j'ai eu un choix à faire très rapidement. Est-ce que je vais lui interdire de monter dans les arbres? Et j'étais très conscient qu'il pouvait se tuer en montant dans les arbres. Donc, les valeurs de sécurité qu'on a érigées comme valeurs absolues aujourd'hui m'auraient dit de pas laisser monter dans les arbres. Puis sûrement que les valeurs dominantes que je vois dans la société diraient que je suis un très mauvais père de l'avoir laissé monter dans les arbres. Mais moi, j'aurais pas voulu avoir un enfant qui ne monte pas dans les arbres. C'est-à-dire... comme humain, je pense qu'il faut qu'on fasse des expériences, il faut qu'on prenne des risques, il faut qu'on passe à un cheveu de la mort de temps en temps, parce que c'est l'initiation. La conscience de la mort, c'est ce qui nous donne un peu le sens à la vie. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y avait l'initiation. Je ne veux pas monopoliser trop longtemps la parole, mais Mais je pense que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Donc, on a plus de seuil à passer dans la vie où, à un moment donné, tu es, par exemple, tu es un enfant jusqu'à cet événement qui est un seuil initiatique. Puis ensuite, tu es un homme ou une femme ou un adulte mature. Alors, la maturité arrive par l'initiation dans les sociétés traditionnelles et c'est souvent la conscience de la mort qui est apportée par une épreuve. Donc, on voit ça constamment dans le pattern du héros, dans l'imaginaire collectif universel. Donc, les héros traversent une épreuve mortelle dont à laquelle il survit, mais il est transformé. Et dans cette épreuve, il rencontre sa totalité. Oups. Est-ce que vous me voyez encore? Vous m'entendez encore?
Ça a gelé.
OK, c'est resté gelé pour moi. Mais la communication, ça fonctionne encore?
Oui,
OK.
je vous
OK,
entends.
j'ai l'air fou un peu là-dessus.
Oui.
Qu'est-ce que je disais? Oui, ils peuvent lui faire rencontrer sa totalité, donc toutes les zones d'ombre qu'il ne voulait pas voir, ou son intégrité, son entièreté. Et c'est à partir de là que il peut revenir dans le monde pour transmettre le cadeau qui vient de son core, de son cœur, c'est le cadeau qu'on a, qu'on porte, qu'on n'est peut-être pas le seul, mais c'est notre cadeau. On a un don à apporter dans le monde et on ne le sait pas tant qu'on n'a pas été transformé en nous-mêmes. Mais on ne se transforme pas comme ça juste par hasard en regardant Netflix. Donc, ce mindset-là que j'ai reconnu dans ton commentaire, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas de durer, mais il s'agit de vivre. Donc,
Ouais, tout à fait.
et puis monter dans les arbres, ça fait partie de vivre.
Ouais, non, c'est
Oser,
super intéressant.
oser, il faut oser pour vivre.
Je suis
Je
d'accord.
repasse la parole, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Vanessa, avais-tu quelque chose à dire? Je ne vais pas te mettre sur le spot, mais je te donne une occasion de parler. OK. Alors, je vous lance la parole à nouveau, sans forcer personne. Dans 2 minutes, personne n'a parlé. Je vais conclure l'activité. Ouais, vous me voyez pas, hein?
Non, on n'a
C'est
plus
pas grave.
l'image.
Ouais. Il y a des limites techniques ici, là. Mais c'est pas grave. Vous m'entendez? OK, donc je vais conclure l'activité en vous invitant, si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le programme de philosophie de Nouvelle Acropole. C'est le programme dans lequel je suis formé. Il va y avoir une présentation dans les locaux de Nouvelle Acropole sur la rue Saint-Denis lundi de 21 novembre à 19 h. Donc, Didier va vous mettre dans le chat un lien vers un événement Eventbrite pour vous inscrire si vous voulez avoir les détails et un numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler pour en savoir plus sur les formations en philosophie que Nouvelle Acropole offre. Donc, ce n'est pas le but ici ce soir de ma part de faire la présentation de ça, mais sachez que si vous voulez en savoir plus, il y aura l'occasion. Lundi 21 novembre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant qu'on se laisse?
Ben, merci beaucoup. C'était
Oui,
vraiment
merci,
très intéressant.
c'était super intéressant.
Ça m'a fait plaisir. Alors, je vais vous laisser bonne soirée là-dessus, puis je vais rester avec Didier pour 1 minute pour conclure l'activité. Passez une bonne soirée, puis
Merci, pareillement, au
ayez
revoir.
de belles pensées philosophiques et prenez de beaux risques dans la vie.
Tous les jours.
Voilà.
Bye-bye.
Oui.
Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée.
Merci, Yuri.
Oui, Marcel.
Merci à Monsieur Dufresne. Bonsoir, Didier.
Salut, Marcel.
Merci d'avoir écouté ce podcast.
Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca/contribuer.